On s'est rencontrés dans un rétroviseur.
Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel. D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu!
Sébastien Lifshitz est réalisateur. Son 10e film s'appelle Les Invisibles, un film qui s'intéresse au parcours de vie de personnes âgées homosexuelles et la façon dont elles ont réussi, au cours de leur vie, à vivre leurs amours au grand jour. Parmi ces personnes, Pierrot, paysan de 80 ans, bisexuel, Jacques, qui a été marié et a eu 5 enfants avant de devenir homosexuel à l'âge de 60 ans, Monique, une fille qui a toujours aimé les filles, aussi loin qu'elle s'en souvienne, ou encore le Marseillais Christian, pour qui le chemin de la reconnaissance de son homosexualité a été semé d'embûches.
Oui, oui, on est mal baisé, oui, oui. T'as trouvé.
J'ai une période où
Sébastien Lifshitz était à Marseille le jeudi 15 novembre dernier avec quelques acteurs de son film au cinéma Les Variétés pour une avant-première publique, interview sur la grenouille, entrecoupée d'extraits du film.
Surtout ne nous affolons pas.
Aujourd'hui, on en rigole et on en aurait pleuré hier.
On disait, on me parlait ça, de ça comme une maladie. Je sais pas, ça te mettait un doute quand même, tu étais classé dans les maladies psychiatriques, quoi.
Le projet du film, il est né un peu par hasard, en fait. Je suis amateur de photographie anonyme et je passe mon temps à aller chiner au marché aux puces, dans les brocantes et à trouver des images comme ça, un peu insolites. Et un jour, je tombe sur un album de deux vieilles dames des années 50, à l'allure très bourgeoise, très vieille France. Et j'arrivais pas à savoir, en fait, si ces deux femmes étaient deux sœurs, deux amies ou deux amantes. Et je demande au brocanteur s'il a d'autres albums. Et il me dit, bah oui, il me sort 10 autres albums, comme ça. Et j'achète les 10 albums, je rentre à la maison. Et là, je fais une sorte d'enquête à l'intérieur des images pour essayer de deviner quelle était la nature de leur relation. Et en fait, je comprends à travers certaines photos qu'il s'agit d'un couple de femmes. Mais ce que je trouvais étrange, c'est que dans les années 50, pour faire ce genre d'image, il fallait aller développer, apporter la pellicule dans le petit labo de quartier et aller chercher les tirages. Donc ça sous-entendait de s'exposer quand même socialement. Et c'était étonnant, sachant que ces deux femmes avaient l'air quand même très discrètes, très bourgeoises. J'ai trouvé ça assez intriguant. Et puis par la suite, j'ai trouvé comme ça d'autres images amateurs où il y avait de l'homosexualité intime. Et c'était toujours les mêmes témoignages de liberté, de bonheur. Et donc, je me suis posé cette question. Enfin, j'ai émis une sorte d'hypothèse qui est, est-ce que dans le fond, les gens des époques passées, est-ce que la majorité des homosexuels ont peut-être réussi à négocier quelque chose avec eux-mêmes, leur famille, le monde professionnel et la société dans son ensemble pour vivre plus ou moins bien leur homosexualité. Parce que par rapport à l'histoire officielle de l'homosexualité, qui est souvent racontée d'un point de vue victimaire et souvent très noir, c'est souvent des parcours de vie qui sont très durs, tout d'un coup, les images que j'avais là sous les yeux ne collaient pas avec ce récit officiel, disons. Et donc voilà, c'était une hypothèse que j'avais, j'étais pas sûr de cette hypothèse et je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir répondre à cette question, c'était d'aller trouver des gens entre 60 et 90 ans, donc deux générations, et de leur demander qu'est-ce qu'il en a été pour eux. Voilà, c'est venu de ça.
Un ami commun, qui s'appelle Alain, nous a mis en relation. Alors ça s'est passé de cette façon. Un jour, cet Alain-là me téléphone, il me dit « Allô Bernard, comment tu vas ?» Je dis « Très bien, et toi ?» Il me dit « J'ai une proposition à te faire. » Alors là, je dis « Honnête, j'espère. » Il m'a dit « Bien sûr. » Alors il m'a dit, est-ce que tu n'as jamais tourné dans un film? Je dis non. Ça te plairait de tourner dans un film? Mais c'était fin mars. Je dis, écoute, on approche du 1er avril, c'est pas la peine de me raconter des bobards. Il m'a dit, non. Enfin, j'ai mis un peu de temps. Et puis je lui dis, écoute, on va voir, est-ce que tu sais le titre du film? Il m'a dit, Les Invisibles. Je dis, non, mais tu rigoles. Les Invisibles? C'est pas possible, il faut changer de titre. Et puis finalement, on a été en rapport, Sébastien est venu chez moi, on a bien discuté, voilà.
Mais ça a pris 1 an et demi, en fait, pour qu'on trouve finalement les témoins du film. Parce qu'il fallait que les témoins, en fait, répondent à des critères assez précis, en fait, pour pouvoir être dans le film. Il y avait 4 critères qui étaient pour moi vraiment importants. Le premier, c'est qu'il fallait qu'ils n'aient pas peur de la caméra. qu'ils arrivent à être naturels devant une caméra, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le deuxième, il fallait que ce soit des gens qui aient suffisamment de distance par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur vie, pour pouvoir développer une réflexion. Qu'on ne reste pas uniquement dans l'addition des faits marquants de leur vie, si vous voulez. Il fallait quand même que les témoins du film arrivent à développer un minimum de discours sur ce qu'ils ont vécu. Il fallait aussi qu'ils aient des documents, des photographies, des films, des lettres, etc., pour pouvoir incarner le passé. Et puis, il fallait aussi que les lieux dans lesquels ils vivaient soient suffisamment cinégéniques pour pas que le film repose uniquement sur la parole. Il fallait que tout parle dans le film. Les lieux, les objets, les archives et leurs paroles. Voilà. L'homosexualité est quand même rattachée à beaucoup de clichés. Elle est souvent assimilée à des gens des villes, des grandes villes, aux professions artistiques. Et pour moi, c'était important d'essayer de trouver des gens qui soient à la fois de la campagne, de la ville, du prolétariat à la bourgeoisie. Voilà, donc il fallait vraiment qu'il y ait cette diversité, qu'il y ait des gens qui assumaient très tôt, très jeune, leurs désirs, qui ils étaient, et d'autres pour qui le parcours a été beaucoup plus difficile. Donc il a fallu, comme ça, une fois qu'il y a eu des évidences, le choix était dur, parce que finalement, c'était sur les 70, on s'est arrêté sur 14, je crois, dans mon souvenir. Et il a fallu réduire, parce que c'était trop pour le tournage. Il a fallu en choisir 10. Et ça a été dur, parce que j'ai dû abandonner des gens dont l'existence était passionnante aussi à raconter. Mais c'est comme ça, c'est malheureusement un film, vous ne pouvez pas...
Du plus loin que mes souvenirs gambadent, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, maintenant, beaucoup plus tard, je suis une fille qui aime les filles. C'est comme ça que je me suis toute ma vie définie. C'est mon identité. J'ai pas de problème d'identité. Si j'ai une question à me poser, comment une petite fille peut aimer un petit garçon ? Pour moi, c'est très, très... je ne sais pas de quoi on parle. Comment est-ce qu'on peut aimer un petit garçon ? Moi, j'aime beaucoup les garçons. J'ai le regret de ne pas les connaître. Mais j'aurais voulu les connaître en garçon, pas en fille. Je ne peux pas connaître un garçon puisque je suis une fille. Tu vois, je marche vraiment sur la tête, je ne sais pas comment te dire.
Le film raconte d'abord des destins individuels qui croisent ensuite les faits marquants des 50 dernières années. En fait,
certains, pas pour tous.
Pas pour tous. Certains ont rejoint la militance, mais pas tous. Je voulais pas, si tu veux, parce que d'abord, il y a eu un film qui a été fait par Yves Jelland pour la télévision, qui est un très bon film, qui s'appelle Bleu, Blanc, Rose, qui raconte l'histoire de la militance homosexuelle des 30 dernières années. Et moi, c'était pas mon projet du tout. Mon projet était d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes de milieux sociaux très différents, aux parcours très différents, et je voulais pas du tout me focaliser sur la militance. Il se trouve que certains ont connu cette militance, mais d'autres pas du tout. Et j'aimais justement cette diversité dans le film. Il n'y a pas de destin homosexuel. Il y a des destins. Et on le construit, chacun à sa façon, en fonction de son éducation, des gens que l'on rencontre. En fait, tout est déterminant, je veux dire. Donc on ne peut pas considérer que les individus sont équivalents. Ils vont tous ressentir la même chose, ils vont tous se libérer de la même manière. Non, enfin, il y a 10 000 manières, évidemment, de vivre... son identité, d'aller à l'endroit de son désir et de mettre en accord ce qui est au plus profond de son être dans sa vie. Et ça, c'est souvent le travail d'une vie, quoi. Ça se fait pas comme ça, d'un coup. Mais cette question, je pense qu'elle est vraie pour n'importe qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel. C'est une construction, c'est un travail. Voilà.
Alors donc, au point de vue ma vie amoureuse, elle a été, si tu veux, ballottée entre hommes et femmes, mais elle a été tout à fait heureuse puisque je me suis toujours adaptée à la fonction qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire, si je voulais une femme, je pouvais savoir une femme. Si je voulais un homme, je pouvais aller vers un homme. Un homme a des points sensibles et une femme aussi, mais c'est pas du tout pareil, quoi. C'est pas du tout pareil. Avec un homme, c'est devant, derrière, comme tu veux. Je pouvais faire la femme et l'homme. Ça, j'ai toujours... Ça m'a jamais gêné. Alors, au bon moment du plaisir, si toi, tu préfères une chose, moi, je veux bien. Mais si je préfère l'autre, moi, tout. Voilà. Je pense que c'est ça, l'amour.
C'est vrai que la nature joue un rôle important dans le film, tout simplement parce qu'elle est, elle est présente dans la vie de, des gens que je filme. On sent qu'ils vivent dans des lieux qui... je pense qu'ils les racontent aussi beaucoup. Pierrot, par exemple, c'est quelqu'un qui a toujours vécu là où je le filme. Il est né dans la maison où je le filme. C'est un homme qui a passé sa vie à aller de sa ferme au petit champ à côté pour aller faire brouter ses biquettes et les ramener ensuite. Il a 85 ans, ça fait 85 ans qu'il fait ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a appris de l'observation de la nature. Dans le fond, on peut dire que Pierrot, c'est un enfant de Rousseau. C'est quelqu'un qui, uniquement par l'observation du monde animal et végétal, a tiré une sorte de philosophie de vie extrêmement libre. Parce que c'est pas quelqu'un qui a été véritablement à l'école et qui est instruit. Donc il a vraiment appris en regardant ce qui était autour de lui. Et cette liberté qu'il a de parole lui vient de choses comme ça, très simples, en fait. Et donc, il fallait à un moment la filmer, du coup, cette nature, les lieux. Tout ça raconte autant que tout ce qu'ils peuvent dire.
On s'est rencontrés dans un rétroviseur.
Je ne sais pas exactement comment je suis redevenu homosexuel.
D'ailleurs, je dois te dire que j'ai une femme et 5 enfants. Oh mon Dieu!
C'était Sébastien Lifshitz, une interview réalisée lors de l'avant-première de son film Les Invisibles au cinéma Les Variétés le jeudi 15 novembre dernier. Les Invisibles, un film sorti sur les écrans depuis le 28 novembre.
Il faisait si beau, le soleil était si chaud, et nous si nus. Ça a été le bouleversement total. Comment une vie bascule à travers une main qui s'aventure.
Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer.
C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein.
Moi, je trouve ça dégoûtant.
Alors, les mal baisés, oui, oui, on est mal baisés, oui, oui. Ah bah, t'as trouvé.
J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré.
Et puis parce qu'on était quand même des marginaux, c'est-à-dire qu'on était la marginalité.